6h45, vous écoutez France Culture, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Et vous nous emmenez au Brésil.
Et oui, avec un déplacement de l'ambassade du Brésil à Jérusalem, une extradition de Cesare Battisti, une rupture avec les dictatures, ce sont les premières annonces internationales du futur président brésilien Jair Bolsonaro, président d'extrême droite. Alors dans quelle direction tournera-t-il Brasilia? On voit ça avec vous Jean-Jacques Kourlianski, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venu. Vous êtes le directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine. Alors, si on peut résumer en deux aspects la politique du Parti des Travailleurs à l'époque, ennemi de Bolsonaro, elle était marquée par deux aspects. L'anticommunisme, le libéralisme économique, c'est ce qu'il a dit, Bolsonaro. Est-ce qu'on peut dire qu'il va prendre justement le contre-pied de cette politique étrangère?
Oui, il y a un virage, effectivement, mais qui est plutôt une inflexion. Donc, de 2016 à 2018, le Brésil n'a pas eu de politique extérieure. Il a été totalement absent. Bolsonaro, lui, a un programme minimal qui est de retrouver le camp occidental. C'est une des deux traditions de la politique extérieure brésilienne. Celle du PT s'inscrivait dans ce qu'on appelle la politique extérieure indépendante, la PEI, que manifestement Bolsonaro ne veut pas perpétuer. Il a d'ailleurs, dans son plan de gouvernement, signaler quelles allaient être ses priorités, le bilatéralisme, donc plus de multilatéralisme, trois pays ciblés comme prioritaires, alors je vous les cite dans l'ordre dans lequel ils figurent dans son programme, les États-Unis, Israël et l'Italie. Et on peut y ajouter, parce qu'il y fait référence dans son programme, trois pays asiatiques, la Corée du Sud, le Japon et Taïwan.
Est-ce qu'il y a rupture ou contre-pied de la politique du Parti des Travailleurs? C'est cette diplomatie que vous qualifiez à l'époque de diplomatie très imaginative, en fait très bien insérée, on peut dire, dans la multiplication des groupes multilatéraux, notamment du Sud, G22, UNASUR. Est-ce que ça veut dire que Bolsonaro va s'engager dans une radicale rupture avec ces groupes?
Oui, il l'a déjà signalé, son ministre de l'économie également, à l'occasion d'une conférence de presse la semaine dernière. Un journaliste argentin interrogeait le futur ministre de l'économie, Paulo Guedes, sur le Mercosur et sur l'Argentine. Traditionnellement, les deux pays étant les pays fondateurs du Mercosur, la première visite d'un président élu dans l'un ou dans l'autre des deux pays est de visiter son voisin. Et là, le futur ministre de l'économie a signalé que le Mercosur ne serait pas la priorité de son gouvernement, pas plus que l'Argentine. Alors effectivement, on a appris ultérieurement que la première visite envisagée à l'étranger par Jair Bolsonaro, ce qui est révélateur de sa conception de la politique étrangère, c'est le Chili. Le Chili qui est engagé dans toute une série d'accords et de relations bilatérales avec toutes sortes de pays dans le monde, mais qui n'est pas engagé, à l'exception de l'Alliance du Pacifique, qui est une alliance assez lâche d'un point de vue institutionnel, qui n'est pas très engagé dans les organisations multilatérales. Il y a eu également une visite du président Piñera du Chili à Madrid, et interrogé sur ce qu'il pensait de Bolsonaro, c'était il y a un mois environ, il a dit « Je ne connais pas monsieur Bolsonaro, donc je ne me prononcerai pas sur ses idées. En revanche, je connais son programme économique qui me paraît tout à fait pertinent. » Et à partir de ce moment-là, il y a eu des échanges, des messages, et ces contacts laissent présager qu'effectivement le Chili deviendra en Amérique latine le partenaire privilégié du Brésil.
Bon, et avant qu'on en vienne aux États-Unis, juste sur les grands axes de projection, il y a aussi les pays asiatiques qui reviennent régulièrement dans son programme, notamment Japon, Taïwan, Corée du Sud, ces dragons asiatiques cités comme exemple. Pourquoi est-ce qu'il se réfère à eux, c'est comme modèle, ou parce qu'il espère développer des relations commerciales?
Alors, d'un point de vue général, parce que ce sont effectivement trois pays qui ont une technologie avancée, des croissances économiques élevées. Pour le Japon, il y a un autre élément. Le Japon, le Brésil plutôt, est l'un des rares pays dans le monde à avoir reçu des migrants japonais, de 1907 aux années 60. Et donc, il y a une communauté de Japonais d'origine brésilienne relativement importante au Japon. Et donc, il a inclus ce pays pour cette raison-là aussi. Donc, il les a visités au mois de mars. Il en a profité pour avoir des rencontres à caractère électoral sous la houlette du président du groupe d'amitié Japon-Brésil au Parlement brésilien, qui est un Brésilien lui-même d'origine japonaise.
Et alors, concernant la relation avec les États-Unis, si on fait référence à l'histoire, c'est vrai que le président Cardoso lui avait des liens avec le Parti démocrate. Bolsonaro lui a une relation qu'on pourrait dire presque personnelle avec Donald Trump, qui l'avait félicité à son élection en 2016, qui l'a rencontré en 2017. Est-ce qu'il faut s'attendre à un alignement du Brésil sur les États-Unis.
Alors là, on rentre dans un, disons, les positionnements de Bolsonaro sont des positionnements idéologiques, des positionnements de conviction. Donc pour lui, les États-Unis représentent l'antithèse du PT qui est assimilé à la Chine, au monde communiste, au Forum de Sao Paulo, que les Brésiliens connaissent assez peu, qui est une organisation de parti politique progressiste latino-américain créée en 1990 à l'initiative du PT. Il en a fait une espèce de franc-maçonnerie qui, par une espèce de main cachée, serait à l'origine de bien des maux du Brésil. Et par antithèse, donc, il souhaite se rapprocher de tout ce qui l'éloigne de ces éléments-là, et donc du pays qui symbolise cette démarche, les États-Unis. Oubliant d'ailleurs que Donald Trump n'est plus dans le consensus de Washington, exactement, dans le libéralisme à 100%. Donc là, il y a un décalage qu'il convient de souligner, que certainement Bolsonaro va devoir affronter.
Alors ça, c'est pour le décalage et pour l'alignement. Il y a deux cas un peu pratiques qui vont se poser directement à Jair Bolsonaro. Il en a parlé. D'abord, les annonces de pression sur le Venezuela qui sont assez incertaines. En tout cas, Jair Bolsonaro a finalement dit qu'il ne ferait pas intervenir l'armée. Mais là, on a bien un point de convergence avec les États-Unis nouveau.
Oui, il y a des points de convergence en matière de politique étrangère. Donc il y a le Venezuela, sans intervention militaire d'ailleurs de la part des États-Unis non plus, ni de la Colombie, ni voilà. Mais le Venezuela est pris comme repoussoir. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que même dans les dernières élections aux États-Unis, dans les meetings de Donald Trump, il accusait le Parti démocrate de vouloir introduire la politique du Venezuela aux États-Unis. Donc c'est assez curieux comme argument. Mais c'est un argument qui est utilisé dans toute l'Amérique latine, donc au Brésil aussi, qui a été utilisé par Bolsonaro pour déqualifier son adversaire, donc Fernando Haddad. Donc il y a évidemment aussi la convergence sur Israël, l'anticommunisme, l'évangélisme. Donc il y a un certain nombre de points idéologiques et de politique étrangère qui effectivement rapprochent les deux présidents, enfin le président des États-Unis et le futur président du Brésil, avec quand même ce décalage qu'il faut signaler en matière de politique commerciale.
Et avec ce cas peut-être le plus spectaculaire et encore une fois cas test, qui est la proposition de transfert de l'ambassade brésilienne donc de Tel Aviv à Jérusalem, de la même manière que l'avait fait Donald Trump. Là encore, hésitation, semble-t-il, de la part de Jair Bolsonaro tout de même, avec des annonces assez contradictoires, et un député du PSDB, Ricardo Ferrasso, qui dit Bolsonaro a fait une promesse précipitée sans en mesurer les conséquences. C'est ce qui s'est passé, selon vous ?
Bon, c'est pas une promesse précipitée, c'est un président de conviction. Donc c'est un président qui s'est fait rebaptiser en Israël, dans les eaux du Jourdain, par un pasteur évangéliste. Donc Israël, pour lui, représente une valeur religieuse, le pays élu de Dieu. Et donc, si Israël considère que Jérusalem est sa capitale, il faut écouter ce que dit le peuple et l'État israélien. De son point de vue, c'est cohérent, d'un point de vue religieux, d'un point de vue éthique. Mais là aussi, il y a un décalage, comme à l'égard des États-Unis. Il a bénéficié du soutien de beaucoup de groupes économiques, en particulier des agro-exportateurs. Le Brésil est la ferme du monde. Il exporte un peu partout, et notamment dans les pays arabes.
Premier exportateur, je crois, de viande halal mondiale.
Oui, alors, le groupe des agro-exportateurs, le 2 septembre, a apporté son soutien à Bolsonaro pour éviter l'arrivée au pouvoir du candidat du PT, de Fernando Haddad. Mais ce qui ne veut pas dire, de la part des agro-exportateurs, qui vont soutenir toutes les initiatives de Bolsonaro, et ils lui ont certainement fait comprendre que leurs intérêts ne convergeaient pas avec cette proposition. Et de fait, le constat que l'on peut faire, c'est que ces réactions sont arrivées très rapidement après les menaces de rétorsion annoncées par l'Égypte. Parenthèse, oui. On va peut-être assister au même type de réaction concernant la Chine. Pour Bolsonaro, accepter que la Chine soit le premier partenaire commercial du Brésil, c'est accepter que le Brésil devienne communiste. Donc il a fait des déclarations répétées à plusieurs reprises. Il a envisagé de privatiser en tout ou partie Petrobras, donc la grande entreprise pétrolière brésilienne, sauf si ce sont des Chinois qui se portent candidats. Et Et donc, on va probablement assister au même pas de deux qu'avec l'ambassade d'Israël et les relations avec Israël et les pays arabes en ce qui concerne la Chine.
Et plus de 10 milliards encore d'investissements chinois au Brésil l'année dernière. Alors, dernière chose, ce pas de deux ou cette situation d'équilibre assez délicat finalement, est-ce qu'elle ne va pas se manifester notamment concernant l'Amérique latine ou comme vous l'avez suggéré avec le FSP Forum de Sao Paulo, il y a peut-être une tentative de déconstruction d'un certain nombre d'institutions, on pourrait dire de gauche latino-américaine. Il avait été question de l'UNASUR notamment, plusieurs fois dénoncé par Bolsonaro. Est-ce qu'il y a vraiment la volonté de saper ces fondations de coopération régionale?
Alors, l'UNASUR et le multilatéralisme latino-américain étaient déjà bien malades.
Oui, puisque plusieurs pays s'en sont retirés temporairement.
La Colombie s'en est retirée totalement et 5 autres pays ne participent plus aux activités de l'UNASUR. Donc la CELAC, la communauté des États latino-américains, est en sommeil. Bon, on peut y ajouter maintenant le Mercosur, puisque le Mercosur non plus ne fait pas partie des priorités de Bolsonaro. Il a déclaré que, bon, on va pas retirer le Brésil du Mercosur, mais il serait souhaitable que le Venezuela en soit totalement exclu. Et par ailleurs, c'est pas vraiment une priorité, donc un signe que ce n'est pas une priorité. Il y a un programme commun à tous les pays du Mercosur et que tous les véhicules aient une plaque identique, comme les passeports européens, donc une plaque Mercosur. Bolsonaro a demandé à ce que ce programme soit arrêté, qu'on revienne à des plaques nationales brésiliennes.
Et un signe effectivement très clair. Merci beaucoup Jean-Jacques Kurlianski, directeur de l'Observatoire de politique de l'Amérique latine.